Jean de la Brette, Conte bleu. Chapitre 2. Lettre 7. Chantal à Madeleine. 5 janvier 1899. Pour la seconde fois, j'ai vu aujourd'hui Madame de Lambelle, chère amie, mais je n'ai rien pu obtenir pour notre œuvre. Elle était de mauvaise humeur parce que, disait-elle, vous l'aviez le matin même sollicitée et tourmentée au sujet d'un poète malheureux et très intéressant. Vous connaissez les tourderies de la marquise quand il ne s'agit ni d'elle ni de ses aises. Elle n'a pu me traduire votre désir et s'est perdue en dissertation sur l'absurdité des poètes qui ont l'ennuyeuse habitude de mourir de faim. Elle a même découvert que l'inspiration pourrait bien ne pas s'accommoder d'un estomac creux et puis s'est élancée dans de touchantes théories. Vous savez si je hais les théories qui cachent généralement le désir de se croiser les bras et de crier à la cantonade qu'on en remontrerait au sein. J'aime qu'on aille droit au but quand il y a un but à atteindre. Enfin, ne médisons pas, mais cette marquise me crispe. Que comptez-vous faire pour le poète? Comment l'avez-vous connu? Vous ne m'en aviez jamais parlé. Puis-je aider votre bon vouloir? Répondez et croyez-moi votre sincère amie, Chantal. Lettre 8. Madeleine à Chantal. 7 janvier. Très intéressant, en effet, mon poète, chère Chantal, mais comment le secourir? Je l'ai découvert il y a 3 jours dans une visite de charité et, ne vous ayant pas revu, je n'ai pu vous en parler. Sa voisine, que je secours de loin en loin, m'a dit qu'il habite près d'elle depuis 14 mois. Elle ne sait d'où il vient, il ne parle jamais de lui-même, mais quand les enfants de cette femme manquent de pain, il leur donne ses repas. Et il ne les remplace pas, madame, car il est trop pauvre. Il se prive de manger tout bonnement. Et puis, savez-vous ce qu'il a fait? Il a su que mon mari ne pouvait pas avancer dans son métier parce qu'il ne savait pas assez d'arithmétique. Eh bien, il lui donne des leçons pour rien. Mais, ai-je dit, pourquoi ne m'avoir pas parlé de lui plus tôt? Parce que j'avais promis de me taire. Mais il dépérit, il se mine. Et ma foi, comme je me jetterais au feu pour lui, je ne vois pas pourquoi je ne manquerais pas à ma promesse dans son intérêt. » Elle continue à m'en parler avec un enthousiasme auquel se mêlait tant de respect, presque de la vénération, que je crus un instant qu'il s'agissait d'un vieillard. Mais il est jeune, de haute taille et blond. Il n'a ni grands cheveux, ni barbe extraordinaire, et son attitude en me voyant, sur un prétexte, je me suis faufilé chez lui, a été celle d'un homme du monde, effarouché de se rencontrer avec un de ses semblables, homme ou femme. Il se cache évidemment, et ce mystère n'est pas sans m'intéresser. Il me paraît fier, bon et si doux que, même dans sa colère, ce géant a l'air d'un mouton. Car il était en colère en me voyant entrer chez lui. Puis sa colère s'est changée en confusion d'avoir été surpris dans un rustique déshabillé. J'ai lu ce sentiment sur son visage. Un pauvre visage amaigri qui porte les traces de souffrance et d'un régime débilitant. Je sais qu'il gagne sa vie avec des écritures, maigre métier qui l'empêche à peine de mourir de faim. Sa voisine m'a conté qu'il fait des vers et lit parfois devant elle de jolies choses qui ressemblent à de la musique. Il économise le moindre sou dans la crainte de faire des dettes et, détail qui vous fera peut-être rire mais qui m'émeut, il lave et repasse lui-même ses mouchoirs de poche. Il s'appelle Nélourdi et habite rue Saint-Jacques, 6. Je vous envoie ce nom et cette adresse au cas où vous auriez une bonne idée. Bien à vous, Madeleine de Brode. Lettre 9. Chantal à Madeleine. 8 janvier. Ma chère, c'est très simple. S'il a faim, il faut lui envoyer à manger. Et comme il ne connaît ni vous ni moi, il acceptera forcément cette nourriture anonyme. J'admire en vous cet esprit imaginatif qui découvre, séance tenante, un mystère dans le fait si naturel d'un poète affamé. Depuis que je grimpe dans les greniers, j'ai rencontré quelquefois de ces réfractaires. Qu'ils soient de haute taille ou de stature infime, qu'ils aient de longs cheveux ou non, ils ne sont pas plus hommes du monde que mon cocher. Ils sont le jouet d'illusions sur leur propre mérite et devraient, selon moi, retourner à leur charrue et à leur métier. Si la poésie vient en tissant, parfait. mais qu'elle soit à la fois le but et le moyen, c'est détestable. Néanmoins, ce rôle de fée inconnue me plaît assez. De plus, j'entends vous obliger, et lors même que vos aperçus me paraissent teintés de romanesque, je suis toujours disposée à aider vos protégés. Je suis allée chez Potin, et j'ai fait expédier à votre poète une langue fourrée. Elle est énorme, et il pourra reprendre des forces. Dans quelque temps, un autre envoi substantiel. Adieu. Chantal. Lettre 10. Madeleine à Chantal. 9 janvier. Rien ne m'amuse comme cette fée qui doue son protégé d'une langue de bœuf. On ne peut dire que le don soit ailé, et je pense que le malheureux en mourra. Quoi qu'il en soit, merci. Ne perdez pas de vue ce filleul des fées et douez-le d'une meilleure situation si parmi vos nombreuses relations, vous en découvrez une. Pourquoi ne feriez-vous pas venir Nelourdi chez vous? Après l'avoir vu et avoir causé avec lui, vous seriez fixé sur ses dispositions à traîner la charrue ou à tisser la toile. À bientôt, Madeleine. Lettre 11. Antoine à Michel. 9 janvier. Voici dans ma vie un fait extraordinaire, et comme je crains qu'il ne soit la conséquence de la visite que je t'ai signalée, je me demande avec inquiétude ce qui va suivre. J'écrivais hier soir très tranquillement lorsqu'on frappa à ma porte. Un garçon de la maison Potin entra et me remit un gros paquet. Il s'en allait quand, revenu de mon étonnement, je lui dis « Il y a erreur, je n'ai rien commandé ». « Monsieur, voici l'adresse. Monsieur Nelourdi, 6 rue Saint-Jacques. C'est bien vous ?»«
Oui. » »«
Alors ? » ?»« Mais qui m'envoie cela ?»«
Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas dans le magasin. Je suis le garçon de course. »«
Est-il impossible que vous vous informiez ?»«
Impossible, monsieur. »
Il jetait un regard significatif sur mon installation et son ton ne laissait pas d'être impertinent. Sans plus insister, je le laissai partir, mais je me reproche maintenant d'avoir manqué de sang-froid. Il aurait fallu questionner plus vivement ce garçon, lui demander de faire une enquête, quitte à lui donner une partie de mes précieuses économies pour mon habillement. À mes questions pressantes, ma voisine m'a dit que sa visiteuse s'appelle Madame de Brode. Seulement, elle ignore absolument son adresse. Je suis allée consulter un tout Paris, mais le nom n'y est pas. En ouvrant le paquet, je me suis trouvé en face d'une langue fourrée et je l'ai examinée longtemps dans un état voisin de l'hébétement. Si l'envoi vient de Madame de Brode, et il ne peut venir que d'elle, elle m'a positivement cru affamé, car il y a de quoi nourrir 3 hommes pendant 5 jours. J'ai partagé ce lourd présent avec mes voisins et je vais manger le reste. Jamais je n'eus plus de raison pour me comparer à un Robinson. La mère, sous forme de hasard, m'envoie des conserves, quelque chose comme le baril légendaire, et de plus, dans mon île, l'ennemi est entré, un ennemi que je n'ai pu encore reconnaître. À toi, Antoine. Lettre 12. 12 janvier. Cher Michel, sais-tu quel ennemi? Le croiras-tu? Chantal. Oui, Chantal elle-même. Je t'écris sous la première impression de mon inexprimable émotion en recevant il y a une heure le billet suivant. Monsieur, une de mes amies m'a parlé de vous en vous demandant de vous recommander pour une position. Voudriez-vous bien passer chez moi, rue de Courcelles, 28. Après vous avoir questionné, je saurai ce qui peut vous convenir. Je vous salue, c'est Hermel. Dans mon trouble, regarder la situation en face m'a été difficile. Toutefois, grâce au ciel, cette situation n'est pas aussi noire que ma première pensée l'avait vue. Évidemment, il s'est passé ceci. Madame de Brode connaît Chantal. Elles se sont concertées ensemble pour me venir en aide, peut-être même est-ce Chantal qui, allant directement au but, m'a envoyé des provisions, sans avoir d'ailleurs l'ombre d'un soupçon sur mon identité. Elle m'écrit comme elle écrirait à un fournisseur. Ma réponse sera un mot sec, terminé par une formule qui déguisera complètement ma personnalité et maintiendra Chantal dans son erreur. Maintenant, je te quitte pour aller chez Potin.
À demain. 13 janvier. Je reprends ma lettre après des investigations machiavéliques couronnées d'un complet succès. L'envoi venait bien de Chantal et sans doute elle récidivera. Te narrer mes impressions serait bien difficile. Après la peur, l'humiliation, après l'humiliation, la conviction que ma dignité est sauve. Chantal envoyant son secours à un inconnu, et tout à coup une joie immense, irrésistible, à l'idée de ce rapprochement indirect avec elle. J'admire les hasards de la vie qui sont supérieurs à toutes les combinaisons des romanciers. Il y a 24 heures seulement, qui m'eût dit que je serais, dans des conditions si singulières, en rapport avec celle que j'aime. Mais si l'événement est extraordinaire, pourquoi n'en pas profiter? J'écrirai à Chantal que j'ai découvert sa charité, sa délicatesse, je la remercierai, j'aurai la joie de m'occuper d'elle, d'établir avec elle des rapports, sans éveiller son attention sur le lourdine de jadis. Mes précautions sont déjà prises pour repousser l'ennemi et conserver tous les avantages de la position. Ordre est donné au concierge de dire toujours que je suis sorti. Promesse formelle a été faite par ma voisine de suivre fidèlement cette consigne. La menace de m'obliger à quitter la maison si elle en parlait m'en fait, je crois, une alliée sûre. Inutile donc de craindre une nouvelle invasion de Madame de Brode, ou qui sait? Que deviendrais-je, mon cher Michel, si Chantal entrait un jour dans ma mansarde? Qu'elle ignore ma vie actuelle autant que mon amour. Tu me diras, il y a un moyen simple d'éviter cette rencontre, c'est de déménager. Mon cher, un peu de bonheur est entré chez moi, je ne veux pas le fuir. À toi, Antoine. Lettre 13. Chantal à Madeleine. 14 janvier. Votre conseil a été suivi, chère Madeleine. J'ai écrit à votre poète de venir me voir. Voici sa réponse. Madame, ma position est excellente et suffit largement à mon ambition. Il y a eu erreur dans les renseignements qui vous ont été transmis sur moi. J'ai l'honneur de vous envoyer mes salutations empressées. Nélourdi. Eh bien, ma chère, ces salutations empressées mettent en pièce votre roman. Un homme du monde emploierait-il une formule de fournisseur? Je penche à croire également que les ressources de votre poète ne sont pas aussi minces qu'on nous l'a dit. Il serait moins empressé à refuser une protection. Cependant, comme je puis me tromper, je continuerai à lui envoyer de temps en temps des provisions. À vous, Chantal. Lettre 14. Madeleine à Chantal. 15 janvier. Cher ami, mes yeux sont excellents et malgré la formule qui vous froisse, ma conviction reste la même, ou plutôt, elle est fortifiée. Il se cache sous une formule aussi bien que dans sa mansarde. Mon poète est fier et ne veut point accepter de service, mais si vous voyez son visage fatigué, qui contraste avec ses larges épaules et sa stature particulièrement élevée, si vous voyez son installation, vous comprendriez que je ne suis pas dupe. Toutefois, on ne sauve pas les gens malgré eux et il nous faut rester sur le terrain pratique des ravitaillements. En raison de quoi, je lui ai fait expédier ce matin même un pâté de gibier qui lui rappellera, j'en suis certaine, un passé meilleur. Bien à vous, Madeleine. Lettre 15. Chantal à Madeleine. 16 janvier. Chère Madeleine, lisez ceci. Madame, en déclinant vos offres, il y a 3 jours, j'ignorais que vous fussiez la donatrice d'un envoi précédent. Je mets à vos pieds mes remerciements et ma reconnaissance. Vous m'apparaissez comme l'incarnation de la bonté délicate, vous devez être aussi belle que bonne, et c'est une joie pour moi de vous devoir un service. Recevez mes salutations, Nélourdi. Ce billet me paraît un peu bien effusionné et assez plat, quoique le style soit suffisant. Mais comment m'a-t-il découverte? Je me perds en conjectures. Et pourquoi sa joie de me devoir un service? Il ne m'a jamais vu. Les poètes vivent dans le bleu, par conséquent dans l'absurde. Vous êtes folle, ma très chère. Envoyer un pâté fin à un homme qui repasse lui-même ses mouchoirs de poche, c'est manquer de sens pratique. Il fallait le ravitailler pour 15 jours avec des conserves solides. Quand je me ferai de nouveau sa pourvoyeuse, je lui choisirai du corned beef ou du pemmican et je serai tranquillisée sur son compte pendant plusieurs semaines. En même temps, je ne donnerai pas à un malheureux des aperçus supérieurs à ses ressources. Vous avez erré. À vous, Chantal. Lettre 16. 17 janvier. Ma chère, rien de plaisant comme vos idées sur la nécessité d'envoyer un enseignement moral sous forme de pemmican ou de corned beef. N'y a-t-il pas là un enseignement plus délicat et plus profond dans ce fait que nous admettons, nous qui ne manquons de rien et considérons notre superflu comme du nécessaire, que les habitants des greniers mangent parfois la poule au pot? Une attention un peu raffinée ne frappe-t-elle pas plus vite et plus fort au cœur des déshérités? Je suis d'avis, cher, qu'ils aient par aventure un superflu qui, dans leur situation, mérite à peine ce nom et possède, croyez-moi, une éloquence pénétrante. Pensez-vous, par exemple, qu'en aidant à la satisfaction des goûts intellectuels de ces pauvres êtres, si vivants et dénués de tout, on ne fasse pas œuvre plus intelligente que d'envoyer du pemmican? À la première pièce en vogue, j'enverrai un fauteuil d'orchestre à mon poète, certaine que cette nourriture superflue qui ne peut se donner lui sera d'un secours plus grand que mon pâté. Ces isolés, aux aspirations peut-être chimériques, mais ni basses ni méchantes, m'ont toujours attiré, et si ma bourse le permettait, je serais fréquemment leur sommelier, au moral et au physique. Adieu. Mad. Lettre 17. 18 janvier. Peut-être avez-vous raison, chère Madeleine, et votre bonté voit plus loin que mon positivisme, encore que celui-ci pourrait longtemps argumenter. Néanmoins, après discussion nouvelle, je suis toute prête à me rendre. En attendant le combat, voyez le résultat du superflu sur l'esprit de votre poète. Madame, vous me comblez, et cela avec une délicatesse dont je suis profondément émue. Vous avez pensé qu'un malheureux ne vit pas seulement de pain et qu'un mets délicat toucherait son cœur. Vous exprimer ma reconnaissance serait difficile. Vous dire qu'il y a désormais à Paris un homme qui, au premier appel, mettrait son dévouement à votre service, vous paraîtrait sans doute une impertinence. Qu'il me suffise donc de vous remercier en vous priant d'agréer mes plus respectueux hommages. N'élourdi. Comprend-on cette façon de s'exprimer? Un pâté toucher son cœur, il veut dire son estomac. Évidemment, il a pris des informations sur la façon de terminer sa lettre à une femme de mon rang. Sur ce point, je ne puis que l'approuver, mais cette facilité à me parler si aisément de son dévouement et autres sornettes, lui, un pauvre à qui je fais l'aumône. En vérité, ma chère, vous conviendrez que j'avais raison et que cet habitant des greniers est un rustre. À vous, Chantal. Lettre 18. 19 janvier. Miséricorde, ma chère amie, mais il devient amoureux de vous. J'y avais déjà pensé et un second pâté achèvera les ravages. Je le lui enverrai prochainement. Un poète, comment n'avais-je pas deviné que l'amour surgirait du fond de la terrine? Je vais lui écrire. Un second ange charitable est entré dans votre vie. Ses ailes vous protégeront de leur ombre bienfaisante, sa providence vous enveloppera d'attention, sa clairvoyance vous enverra un jambon. Un style aussi esthétique ne peut que me faire aimer, et il est urgent que le cœur de ce poète soit partagé en deux. Il y aura moins de danger. Voyez la différence de nos vues. Dans son billet, vous découvrez le rustre qui ne reste pas à sa place. Moi, je vois un homme qui, oubliant son rôle, prend pied sur son terrain réel et parle à son égal. Bonsoir, je pars dans peu de jours pour la campagne où je resterai à peine une semaine. En mon absence, prenez garde aux flammes amoureuses qui s'échappent d'une mansarde. Madeleine. Lettre 19. 22 janvier. Riez, ma chère, amusez-vous. Mais quel malheur que vous ne soyez pas née au temps où les aventures extravagantes couraient les rues, où un profil surmonté du hennin se transformait en dame de la pensée que l'on chantait dans les cours d'amour. Quel joli roman vous eussiez vu dans les plumes d'oie que mon fermier passe le dimanche dans le galon de son chapeau, ou dans la rapidité d'un bicycliste volant sur sa monture poétique, et dans l'attitude gracieuse que l'on connaît vers l'objet romanesque de ses tendresses. Pour moi, je préfère que les temps soient aux simples réalités, sans crainte d'événements bizarres qui déroutent. Ainsi, comme nous ne sommes plus dans ces temps naïfs où vous auriez dû naître, croyez que celui qui, perché sous les toits, s'abandonne même en m'écrivant au mirage de la poésie, n'est et ne peut être que le pauvre R à qui l'entend l'obole, en l'enveloppant, je le veux bien, de précautions délicates. Mais le fait est toujours le fait. Enfin, assez parlé de votre protégé qui menace d'être encombrant. Toutefois, rassurez-vous, je ne perdrai pas de vue la nécessité de le nourrir. Lundi, je vais chez la marquise de Lambelle. Elle m'a donné rendez-vous à 1h30, afin, me dit-elle, de causer librement de notre affaire. Laissera-t-elle enfin la théorie pour l'action, et sortira-t-elle de la boîte où elle la tient sous clé, la générosité dont elle parle toujours ? Adieu, bon voyage. Aussitôt vos affaires terminées, revenez-nous promptement. Chantal. Lettre 20. Antoine à Michel. 18 janvier. Ma vie est vraiment entrée dans une phase bien singulière, mon cher Michel. L'atmosphère a pris autour de moi des teintes nouvelles qui frappent mon imagination. Je vis dans une sorte d'excitation, comme à l'approche d'événements extraordinaires. Mon état d'esprit doit ressembler à celui des soldats en campagne. Bien qu'ils ne voient rien à 10 lieues à la ronde, ils s'attendent à des attaques imprévues, la poudre est dans l'air et leur vie, sans remuer, est pleine de mouvements. En même temps que cet état actif sans activité, je ne sais quel calme, quelle douceur m'environne, comme si l'être bon et mystérieux d'une légende avait pénétré chez moi. Il y a dans cette mansarde, en apparence déserte, un esprit aimable qui met partout son influence vivifiante. Tu me diras, c'est l'amour. Rien n'est plus exact, c'est l'amour. Cet amour dont je te parlais, qui se nourrit d'un rien et s'exalte actuellement dans ses rapports indirects et parfaitement délicieux avec la femme aimée. Le mystère et le danger ont toujours excité ce dieu ailé. Je le laisse voleter à sa guise autour de mes pensées et les percer de ses flèches aiguës dont la blessure m'est douce. Ma chambre est devenue un monde agité, au mouvement tumultueux. Explique comme tu pourras. Le dernier événement s'est présenté sous la forme d'un pâté exquis. Quelle misère que celle de l'homme! Pendant que je m'attendrissais sur la délicatesse de Chantal, qui songe à donner le plaisir du superflu aux pauvres qu'elle secourt, je n'étais pas insensible à la joie grossière de manger un plat succulent. Mon excuse est l'école du fromage, pratiquée à trop forte dose. Ensuite, ce pâté délicieux me reportait au jour où, chassant ensemble, toi et moi, nous rapportions nos premières perdrix. Je me voyais en halte, sous les saules tourmentés du chemin de la levée, et les échos répétaient nos fanfaronnades de chasseurs. Mais pourquoi chercher à colorer mes impressions ? Le plaisir très grand qu'éprouvait la bête en mangeant ce bon pâté était, au fond, la cause déterminante de mes impressions heureuses. C'est humiliant, mais c'est ainsi. Et Dieu sait si j'étais Xavier de Metz, où m'entraînerait une dissertation sur le commerce trop intime de l'âme et de la bête. Une partie de la nuit s'est passée à composer pour Chantal un billet de 5 lignes. Tu ne peux imaginer la douceur, l'allégresse de mon sentiment pendant qu'écrivant, je me disais « Est-ce moi, bien moi, qui suis en rapport direct avec elle ?» Moi qui, sous des formes alambiquées, souvent plates, lui dis l'amour qu'elle ignorera toujours. Moi, chevalier de Lourdine, revêtu des habits peu attrayants d'un rimeur affamé, je mets sous chaque mot, sous chaque lettre, ce qu'elle ne verra jamais. Dans ma situation bizarre, il y a des joies fines et secrètes, difficiles à définir. Maintenant, qu'adviendra-t-il ? Mon refus d'accepter une nouvelle et meilleure position a certainement coupé court aux désirs agissants de Chantal. Elle se bornera, j'en suis certain, à envoyer de temps en temps un jambon ou une langue fourrée. Nélourdi acceptera, pour laisser au chevalier, ton ami, le bonheur de vivre un peu plus près d'elle. Adieu. Antoine.